9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Cette semaine, on a surtout parlé vaccination, y compris le Premier ministre Jean Castex. Mais que sait-on exactement des vaccins que l'on nous promet pour le mois prochain ? Élisabeth Bouvet, la présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, est mon invitée ce matin. Et l'on retrouvera ensuite Valéry Giscard d'Estaing, bien vivant. C'était il y a 10 ans exactement, il venait de publier une uchronie dans laquelle Napoléon se sortait vainqueur de la campagne de Russie. Je lui en avais proposé une autre qui lui aurait permis de gagner à coup sûr l'élection de 1981. Il suffisait de changer un truc. Ça lui avait tellement plu que ça l'avait mis de bonne humeur pour le reste de notre entretien. Vous allez même l'entendre rigoler à plusieurs reprises, ce qui ne lui arrivait pas souvent à la radio. Bonjour Elisabeth Bouvet.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé, chargée d'établir des recommandations pour le gouvernement. Le plan de vaccination qu'a dévoilé cette semaine le Premier ministre Jean Castex, il vous avait demandé votre avis préalable ?
Non, pas directement, mais... Et nous avions fait parvenir nos propositions de recommandations et elles ont été parfaitement intégrées. Donc tout ça est parfait, tout ça est bien pris en compte.
Les Anglais commenceront, eux, à se faire vacciner dès la semaine prochaine. Or, d'après ce que nous a dit Jean Castex, nous, ça commencera en janvier pour 1 million de personnes, essentiellement dans les EHPAD. Puis en mars, 14 millions d'autres, les plus de 75 ans, ceux qui ont des pathologies chroniques, le personnel de santé de plus de 50 ans. Et le reste de la population, ce sera après, fin mars, début avril. Pourquoi c'est si long chez nous ?
Vous trouvez que c'est long? Moi, je trouve que c'est déjà très extrêmement rapide. Ce qui nous a surpris, nous, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les Anglais vaccinent déjà la semaine prochaine. Nous devons attendre de toute façon l'avis de la Commission européenne qui rend l'avis sur les vaccins. C'est une Commission européenne qui ne donnera son approbation à un ou plusieurs vaccins qu'au mieux la semaine prochaine. Donc, on ne peut pas faire plus vite que cela. Je pense pas que ça change grand-chose de démarrer en décembre ou en janvier.
Est-ce qu'on en sait assez aujourd'hui sur chacun de ces vaccins ? Est-ce qu'on en sait assez pour dire qu'ils sont sûrs et efficaces ?
Alors, justement, là, c'est là où l'exercice est un peu difficile pour moi, parce que n'ayant pas encore en France d'autorisation de mise sur le marché pour ces vaccins, je ne peux pas me prononcer dessus, dans la mesure aussi où ma commission, la commission technique des vaccinations, devra rendre un avis sur ces vaccins. Donc, nous ne pouvons pas, avant que l'AMM ait été obtenue, nous ne pouvons pas nous prononcer sur les vaccins. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus. On sait que si ces vaccins ont atteint un stade où le dossier est déposé aux autorités compétentes, c'est que vraisemblablement, ils ont des garanties en termes d'efficacité et de sécurité.
On sait qu'ils empêchent de tomber malade, mais on ne sait pas s'ils empêchent de transmettre le virus, par exemple. On ne sait pas.
Une des questions qui reste importante et auxquelles il faudra qu'on ait des réponses pour aller plus loin, c'est si ces vaccins sont susceptibles d'empêcher complètement l'infection. On sait qu'effectivement, comme vous le dites, ils empêchent les formes symptomatiques et les formes graves, mais on ne sait pas donc s'ils empêchent aussi des formes asymptomatiques ou s'ils ne transforment pas les formes graves en formes asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, ce qui voudrait dire que si les personnes peuvent continuer d'être infectés même sans faire des symptômes, ils peuvent éventuellement continuer à transmettre. Donc cette information sur la transmission, on ne l'a pas encore. Je pense qu'on l'aura d'ici quelques semaines, parce que ça demande des études un petit peu différentes pour le savoir. Et bien évidemment, c'est très très important pour la suite de la campagne.
On sait qu'il y a au moins 3 vaccins qui sont sur la ligne de départ. Comment on va faire pour répartir ? Est-ce qu'on a une idée d'ores et déjà comment seront attribués tel ou tel vaccin à telle ou telle personne ?
Écoutez, alors ça c'est aussi une question difficile, parce que pour l'instant, on n'a pas le calendrier exact d'arrivée des vaccins. Donc il est possible que l'on n'ait pas, si vous voulez, que la priorité qu'on a fait en termes de priorisation des doses, d'abord vers les personnes les plus fragiles, fasse que tel vaccin soit, par exemple, qu'il y aura peut-être probablement en janvier qu'un seul vaccin, ce qui ferait qu'on n'aura pas le choix de faire ce vaccin ou un autre vaccin. Donc, on ne sait pas du tout quel est le calendrier d'arrivée des doses de vaccins. Et donc, ça rend difficile pour l'instant de pouvoir dire que l'on pourra choisir le vaccin.
Alors, autre question, comment a-t-on fait pour trouver aussi vite un vaccin, alors qu'on n'en a toujours pas pour le sida au bout de 37 ans, et que le sida fait encore 690 000 morts l'année dernière, hein, et qu'il y a 2 millions de nouveaux séropositifs par an, que 32 millions de gens sont morts du sida, et on n'a toujours pas de vaccin. Est-ce que ça vous a étonné, la rapidité avec laquelle on a trouvé ?
Oui, je comprends très bien votre question et votre étonnement. Alors, je peux dire plusieurs choses. C'est que d'une part, nous-mêmes, on a été étonnés parce qu'effectivement, la capacité des chercheurs d'abord, puis de l'industrie ensuite, à aboutir à des vaccins qui paraissent comme ça efficaces. Donc, c'est absolument extraordinaire. Par rapport au sida, je peux dire aussi que le sida est un problème vraiment particulier parce que le virus VIH, il rentre à l'intérieur des cellules et il y reste de façon chronique. Et ça soulève une question très, très difficile en termes d'immunité. Mais en plus, ce sont les cellules immunitaires qui sont attaquées. Ce sont des cellules qui ont des durées de vie très longues. Et donc, la problématique du sida, elle est vraiment tout à fait à part. En revanche, les maladies infectieuses aiguës, comme l'est le Covid, c'est-à-dire c'est une infection aiguë, le virus arrive, il infecte un certain nombre de cellules et il disparaît. Et donc dans ce cas-là, on n'est pas étonné qu'on puisse arriver à trouver un vaccin. Après, ce qui est étonnant, c'est la rapidité. Comme vous avez vu, on a utilisé là, on nous propose ce qu'on appelle des nouvelles plateformes, mais qui sont à l'étude depuis plus de 10 ans, hein, vers 15 ans environ. Et ces plateformes dites ARN, c'est-à-dire on est capable de faire produire à l'intérieur de la personne vaccinée la protéine contre laquelle elle va s'immuniser. Et donc, si vous voulez, en termes de recherche, c'est l'aboutissement de nombreuses années de recherche pour faire des médicaments ou des vaccins à base d'ARN messager. Donc ça, c'est une chose qui finalement arrive à point nommé, si vous voulez. Et puis, l'intérêt aussi, et qui est là extraordinaire, je pense pour le futur et pas seulement pour le Covid, c'est que fabriquer de l'ARN messager, c'est extrêmement facile. Et surtout avec facile façon de parler, mais enfin relativement facile, une fois qu'on possède exactement la séquence de molécules à produire. On peut imaginer de fabriquer des quantités extrêmement importantes de vaccins en un temps très court.
On fait une pause, Elisabeth Bouvet, on se retrouve juste après.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours avec Elisabeth Bouvet, présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de Santé. En ce qui concerne ces 200 millions de doses hein, que la France a précommandées, 200 millions de doses de vaccins, de quoi vacciner 100 millions de personnes, on s'était posé la question de l'acheminement. On imaginait des Boeing 747, des Airbus A380 faisant une sorte de manège, nous apportant nos vaccins. Quand sera-t-il exactement? Exactement. Est-ce qu'on a une idée de cela ?
Certains vaccins vont venir effectivement des États-Unis, d'autres seront produits en Europe et même très près, peut-être même certains en France. Donc je pense que l'importation ou l'arrivée des doses de vaccins ne pose pas de problème. C'est plus la conservation et la logistique autour de l'utilisation des vaccins qui va nécessiter vraiment une chaîne bien organisée pour que ce soit fait rapidement, que les vaccins soient rapidement utilisés et préparés. Donc c'est ça qui va poser des problèmes logistiques auprès des personnes à vacciner.
Oui, il va falloir en vacciner quand même un grand nombre par jour dans des hôpitaux, dans des casernes. Ça aussi, est-ce que c'est mis au point d'ores et déjà ? Est-ce que c'est à vous qu'on a posé la question ?
Alors nous, on donne un avis général, si vous voulez. Ce qui semble, c'est que la première phase, finalement, va se passer, comme vous l'avez dit, plutôt dans des établissements déjà, c'est-à-dire les EHPAD, tout. C'est déjà des structures où les gens sont regroupés. Donc ça facilite nettement la fabrication et l'administration d'un nombre relativement important de personnes au même lieu. C'est après que ça devient plus compliqué et tout va dépendre à ce moment-là du type de vaccin qu'on a et probablement que les vaccins qui viendront après le premier vaccin utilisé seront des vaccins qui sera plus facile de transporter, qui n'auront pas les mêmes contraintes en termes de conservation. Et donc, ce sera beaucoup plus facile. Mais je crois qu'il faut pas. Enfin, notre idée à la Haute Autorité de Santé, c'est et à la CTV, c'était que le processus soit relativement souple et qu'il y ait plusieurs modalités de vaccination, que les personnes, parce que c'est quand même, on va quand même prioriser, et même, je pense que dans les premières séquences de la vaccination, il va vraiment s'agir de vacciner des gens qui sont âgés, qui sont fragiles, qui sont souvent à domicile, et donc il faudra vraiment développer des moyens d'avoir des personnes qui aillent à domicile les vacciner. Donc les médecins, certes, mais aussi les infirmières, pourquoi pas aussi au plus près des personnes, ne pas compter un peu sur les pharmaciens. Néanmoins, je pense qu'il faudra aussi très vraisemblablement compter sur à la fois les établissements de santé qui peuvent très bien vacciner déjà leur propre personnel de santé, les personnels de santé en général d'ailleurs probablement, et puis d'autres structures. Peut-être faudra-t-il créer au niveau municipal des lieux de vaccination. Il y a déjà des centres de vaccination. Donc nous, ce que nous avons suggéré à la Haute Autorité de Santé, c'est autant que faire se peut, utiliser déjà les structures existantes pour vacciner et renforcer les personnels pour vacciner sur ces lieux plutôt que d'aller créer des nouveaux, des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller, qui ne sont pas faits pour ça et qui vont en compliquer encore l'organisation.
Et Elisabeth Bouvet, dernière question. Le but, si j'ai bien compris, c'est d'immuniser 60 à 70% de la population. Les Britanniques sont 79% prêts à se faire vacciner, 69% de la population allemande, 65% de la population italienne. En France, c'est beaucoup moins que ça, ça a encore baissé, c'est moins de la moitié des Français qui seraient prêts à se faire vacciner. Est-ce que ça risque de poser un problème à la fin ?
Bah écoutez, là, ce sont des intentions. Elles ne sont pas confirmées dans les faits pour l'instant. On va voir comment les gens réagissent. Moi, je compte beaucoup. C'est pour ça que la phase initiale, enfin, il y a plusieurs choses qui me paraissent très importantes pour que cette adhésion augmente, si je peux dire. C'est d'une part les premières phases pour montrer que ça se passe bien et faire aussi en sorte et montrer qu'on est parfaitement transparent sur la façon dont ça se déroule. Et puis ce qui me paraît aussi très important pour augmenter l'adhésion, c'est que les professionnels de santé, notamment les médecins, soient vraiment très très impliqués, et les promoteurs de la vaccination. Donc on compte beaucoup sur eux pour convaincre et s'adresser aux patients qu'ils suivent. Dans un premier temps, vraiment, l'essentiel, à mon avis, c'est quand même qu'on va utiliser ces vaccins avant tout pour protéger les gens qui sont à risque de faire des formes graves. Et quand, dans les sondages dont vous parlez, on s'adresse à la population générale qui n'est pas particulièrement concernée par le risque, si vous voulez. Mais je pense que quand on s'adresse, et les enquêtes que l'on a et qui ont moins été diffusées, mais que continue à faire, auprès des personnes, justement, qui sont particulièrement à risque, les personnes plus âgées, les personnes qui ont des maladies, eux sont beaucoup plus favorables à la vaccination et dans l'attente d'être vaccinés. Donc voilà, je pense que les choses vont évoluer. On va vacciner en priorité les personnes à risque qui sont elles-mêmes demandeuses de vaccination parce que elles ont peur, parce qu'elles peuvent pas bouger de chez elles, parce que leurs voisins, leurs amis sont décédés du Covid. Donc sur cette population, il y a un accord, il y a une adhésion à la vaccination. Et dans un deuxième temps, je pense que le rôle des professionnels de santé et l'information qui sera donnée sur les premières phases devrait permettre d'augmenter, j'espère, l'adhésion de la population.
Merci Elisabeth Bouvet. On se retrouve dans un instant avec Valérie Giscard d'Estaing.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Et l'on retrouve tout de suite Valéry Giscard d'Estaing. Il y a 10 ans exactement, il venait de publier une uchronie, un roman intitulé « La victoire de la Grande Armée ». Monsieur le Président, si l'on refaisait l'histoire en ce qui vous concerne, si un écrivain voulait écrire non pas « La victoire de la Grande Armée », mais « La victoire et la réélection » pour un deuxième mandat de Valéry Giscard d'Estaing en 1981...
Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Alors, je m'adresse à l'écrivain. Qu'est-ce que vous changeriez pour que Valéry Giscard d'Estaing soit réélu en 1981 ?
Changer dans les faits, vous voulez dire ?
Oui, dans les faits. Ah, je pourrais vous poser la question autrement. Comme vous vous êtes demandé à quel moment Napoléon a-t-il perdu, je voudrais vous demander à quel moment est-ce que vous avez perdu cette élection ?
Moi, j'ai perdu assez tard, en fait. Hein ? C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce que les journalistes, excusez-moi, répètent. On avait dit que j'étais rejeté par les Français. Pas du tout, c'est une blague, ça. Non. Jusqu'à janvier 81, donc trois mois avant l'élection, les Français me croyaient réélu. Il y avait, dans tous les sondages, 63-64% qui disaient qu'il va être réélu. Donc c'était ce qui était prévu. Et puis, il y a eu une chute rapide et forte à partir de janvier, février, ainsi de suite. Et au fond, s'il fallait changer quelque chose, c'était mieux comprendre la réélection. Je n'ai pas compris ce qu'était la réélection. Et pourtant, j'aurais dû, parce que j'avais observé une réélection qui était celle de De Gaulle. Alors ça, c'est très loin, naturellement. Nos auditeurs, peut-être, ne peuvent pas s'en souvenir. Le général De Gaulle a été élu une première fois. Et en 65, il devait être réélu. Tout le monde pensait qu'il serait réélu au premier tour triomphalement. Or, il a été mis en ballotage. Moi, j'avais rencontré le ministre de l'Intérieur dans l'antichambre de De Gaulle 8 jours avant. Et il m'avait dit, oui, on pensait qu'il aurait 70% des voix. Bon, il aura un petit peu moins, mais de toute façon, il sera élu au premier tour. Il n'a pas été élu au premier tour. Il a été élu assez largement, mais pas plus, au deuxième tour. Donc j'aurais dû voir que la réélection, c'était difficile. C'est difficile parce que les gens qui se présentent croient qu'on les jugera sur ce qu'ils ont fait. Et comme ce que nous avions fait, je croyais en tout cas que c'était pas mal, je me suis dit, bon, c'est pas mal, on continue. Non, non. Ils élisent en fonction de ce qui va être fait. Et quand on propose trop peu, quand on ouvre trop peu de perspectives, d'espace, ce que j'ai fait à tort, à ce moment-là, ils ne votent pas pour vous.
J'ai une autre hypothèse. Moi, si je devais écrire la victoire de Valéry Giscard d'Estaing en 1980, ce que j'imaginerais en tant qu'écrivain, c'est que vous auriez dû perdre en 78. C'est législatif que tout le monde s'attendait à ce que vous alliez perdre. La gauche, disait-on, était majoritaire. Elle avait remporté les municipales. Elle devait normalement gagner les législatives. François Mitterrand serait devenu votre Premier ministre. Vous aviez dit que vous accepteriez la cohabitation. Vous aviez prévenu tout le monde à ce moment-là. Et puis, paf, en fait, vous avez gagné ces élections. Vous les auriez perdues. On peut imaginer que François Mitterrand, la gauche, appliquant le programme commun, en 2 ou 3 ans, aurait perdu sa popularité. Et vous auriez été réélu triomphalement en 81.
Oui. J'aurais probablement...
Vous êtes probablement... d'accord ?
Ah oui, je suis d'accord. Alors, il faut proposer à mon éditeur, la maison Plomb, n'est-ce pas, d'écrire.
Oui.
Faites-le. Parce que la défaite de 78, elle était programmée.
Voilà.
Toute la presse, 2 mois ou 3 mois avant, considérait que c'était acquis, en fait. Et donc, j'aurais pu se produire.
Oui, vous l'aviez même dit vous-même.
Et moi, j'avais dit,
il y aura cohabitation.
J'avais dit ce que je ferais. Au fond, ça me plaisait. Moi, je partais à Rambouillet.
Voilà.
Donc, je m'installais à Rambouillet, qui est un très bel endroit que j'aime beaucoup, qui n'est hélas plus encore, ça fait partie de ces erreurs, qui n'est plus domaine de la présidence de la République. C'est une erreur. Bon. Moi, je serais m'installer à Rambouillet et j'aurais regardé les choses de loin, en venant simplement le mercredi matin pour le Conseil des ministres. Je n'aurais même pas couché à l'Élysée, je serais arrivé à 9h, 9h30, n'importe quoi. Et à la fin du conseil, j'aurais dit au revoir, messieurs, je serais reparti. Pourquoi ? Parce qu'il faut être présent au Conseil des ministres, c'est une obligation du président, mais c'est tout. Et puis j'aurais assisté au spectacle. Alors comme naturellement l'économie serait partie, hélas, en morceaux, comme le déficit se serait creusé, comme l'inflation, les prix auraient augmenté, tous les Français auront dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, arrive l'élection, et évidemment on gagne.
En 83, quand il y a eu le plan de rigueur, vrai que François Mitterrand n'était plus du tout populaire à ce moment-là. Vous auriez été réélu, c'était à coup sûr.
Mais écoutez, écrivez ce livre et si vous voulez bien, je vous interrogerai à Europe numéro 1.
9h, 10h... C'est arrivé cette semaine avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Si l'on regarde bien, on s'aperçoit que c'est pendant votre septennat que le monde a changé pour devenir le monde actuel, celui dans lequel nous vivons, avec l'Europe bien sûr, dont vous avez été le grand organisateur, le Conseil de l'Europe, l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel et même la monnaie unique, qui devait s'appeler l'écu à ce moment-là, mais aussi le G5, c'est vous qui l'avez inventé, la Chine qui s'est réveillée à ce moment-là, c'est là que Deng Xiaoping a été au pouvoir, l'islam s'est réveillé également, Khomeini est arrivé en Iran, le choc des civilisations, comme on l'a appelé plus tard, en fait, il a peut-être commencé avec la guerre du Liban. Le communisme a commencé à s'effondrer avec le syndicat Solidarité en Pologne. Le néolibéralisme est arrivé avec Margaret Thatcher, puis Ronald Reagan. La mondialisation que vous avez vous-même appelée en 1974, le mondialisme. La désindustrialisation avec Manu France et la sidérurgie Lorraine. Alors l'écologie, le nucléaire, bien sûr. L'informatique a pris son envol. Les premiers ordinateurs portables sont apparus. Les manipulations sur le vivant. La navette spatiale, mais aussi le terrorisme international. Le sentiment d'insécurité. L'arrivée des femmes massivement sur le marché du travail et au gouvernement. C'est vous qui les avez fait entrer en nombre. Et puis le chômage massif et la crise dont on n'a plus jamais cessé de parler depuis. À l'époque, on pensait que c'était une crise conjoncturelle liée au choc pétrolier. Ensuite, on a dit que c'était une crise structurelle. Ce serait là que le monde aurait changé, que l'époque, on aurait changé d'époque. 35 ans plus tard, qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout ce que vous venez de décrire est vrai. Donc les faits, voilà les faits, ils sont comme
et
ça.
Et est-ce que vous en aviez conscience à ce moment-là ?
Oui.
Que le monde changeait à ce point ?
Je le disais, je l'ai dit à plusieurs reprises. Non, je le disais. Simplement, il était en direction du changement. D'ailleurs, j'avais dit moi-même, il faut changer, il faut s'adapter, et ainsi de suite.
C'est le changement de la continuité.
Voilà. Les Français avaient été un peu effrayés parce qu'au fond, ils n'aiment pas le changement. Ils ont peur du changement. Ils croient que le changement est toujours une menace, en fait. Mais la menace, ce n'est pas le changement, c'est de ne pas s'adapter au changement, en fait. Non, tout ça arrivait. Néanmoins, c'était des débuts, comme vous l'avez dit. Et ça ne s'est développé fortement qu'un peu plus tard.
En effet, tout était en germe.
Voilà, tout était en germe. On voyait les germes. Prenez un cas très, très simple qui est l'informatique et la communication. Le système actuel d'Internet n'existait pas. On se commençait à s'habituer à des petits usages, en fait.
Mais le Minitel a commencé à
voilà, le Minitel a commencé. On a installé le Minitel dans un salon de l'Élysée.
Ouais.
Et je me rappelle, moi, j'y étais allé, il y avait le directeur des télécommunications en France, qui était un type remarquable, qui s'appelle Thierry, qui est un ingénieur des télécommunications, qui m'a fait essayer le Minitel. Et je lui ai dit, mais c'est très bien tout ça, mais personne ne pourra s'en servir, c'est trop compliqué. Donc je n'imaginais pas que les enfants, 35 ans plus tard, tapoteraient sur des ordinateurs avec une rapidité, connaissance extraordinaire. Donc c'était le début. Et donc il fallait commencer à s'adapter. Alors nous sommes adaptés sur un certain nombre de choses, puisqu'on s'est positionné sur l'espace à cette époque. Actuellement,
Ariane, le premier vol, c'est
oui,
vous.
Voilà. Ah oui, non seulement le premier vol, mais l'accord européen sur Ariane, le fait d'arrêter la génération précédente, qui était une génération purement française et militaire, donc de courte portée, qui ne pouvait pas faire des missions spatiales. Donc ça a commencé à ce moment-là. Et les Français de l'heure actuelle, par exemple, ne savent pas que nous sommes une des puissances spatiales essentielles dans le monde. Et ça, les décisions ont été prises à ce moment-là. Donc on a commencé à s'adapter, à mon avis. Vous parliez des femmes, c'est le moment où moi j'ai fait entrer dans la vie publique les femmes qui n'y étaient pas. J'ai eu dans mon gouvernement 4 femmes remarquables, Alice Saunier-Seyté, Françoise Giroud, bien sûr Simone Veil, Monique Pelletier, etc., qui sont entrées et qui avaient des grands postes. Donc la féminisation des fonctions en France a débuté à ce moment-là. On s'était attaqué au problème de l'éducation, et c'est curieux quand on y pense maintenant. J'avais dit, il faut que les enfants, les élèves des collèges connaissent les entreprises, parce qu'ils travailleront dans les entreprises, il faut qu'ils les connaissent. Scandale ! Scandale ! On dit, vous voulez assujettir l'éducation au patronat. Et quand on disait, il faut qu'ils aillent visiter, mettons, ils étaient, je vais aller visiter en Franche-Comté, on disait, les élèves vont les visiter, les usines Peugeot. Pas question, naturellement, vous allez les asservir au patronat. Donc il y avait une espèce de recul, en somme, de la conception de l'adaptation au monde moderne qui a commencé dès ce moment-là.
Et ce qu'on appelle la crise depuis cette époque, depuis 1974, moi je m'en souviens, j'ai toujours entendu au journal de 20h le soir parler de la crise. Ça n'a jamais cessé. Est-ce que cette crise, pour vous maintenant, 35 ans plus tard, est-ce que c'est une crise d'adaptation à ce changement radical de la société industrielle finalement ? Et est-ce que vous l'avez bien jugé dès le départ ? Est-ce que vous avez imaginé dès le départ qu'en fait ce serait une crise longue ? Ce n'était pas seulement lié au choc pétrolier ?
Non. Au début, si vous voulez, j'ai cru que c'était une crise liée au choc pétrolier. Donc il fallait digérer ce choc, qui était un choc très fort.
Oui, 128% d'augmentation.
Oui, c'est comme si...
Rien que pour le premier. Hein.
L'essence en France à l'heure actuelle, le prix était multiplié par 3. Alors imaginez les réactions, les protestations, les difficultés d'ailleurs. Bon. Mais je me suis dit, ça ne va pas durer, on va se protéger. C'est pour ça qu'on met en place notre programme nucléaire qui nous protège. Parce que si nous avons à l'heure actuelle l'électricité la moins chère d'Europe, c'est à cause du nucléaire.
Déjà entendu. À l'époque, les Français étaient ceux qui consommaient le moins de pétrole grâce au nucléaire.
Voilà, absolument. Mais j'ai cru à tort, si vous voulez, que ça serait une crise du type cyclique, c'est-à-dire que ça commence et ça finit. Alors comme ça a recommencé plus tard, ça a recommencé en 1980, à ce moment-là, je me suis dit non, c'est probablement une crise de changement d'époque économique.
2 minutes 30 de patience et Valéry Giscard d'Estaing sera de retour.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Valéry Giscard d'Estaing, il paraît que vous êtes l'un des personnages du roman Les Enfants Tristes de Roger Nimier, que vous avez croisé, je crois, au moment de votre jeunesse. Vous seriez Robert de Cheverny, jeune inspecteur des finances, qu'il décrit, Roger Nimier, comme un solennel et beau jeune homme. Est-ce que vous êtes reconnu dans Les Enfants Tristes ?
Un peu. Non, Nimier, je l'ai bien connu. Et il y avait un milieu. Vous savez, ce qui est intéressant dans votre émission, d'ailleurs, sur l'évolution du monde, c'est les groupes. Ils se forment des groupes à un moment, à un autre. Et là, c'est l'après-guerre, c'est les années 46-50 à peu près, où il y a eu une jeunesse assez brillante qui sortait d'une période épouvantable, parce que c'était l'occupation avec tous ses excès, ses horreurs et ainsi de suite, qui se sont retrouvés dans un pays qui était libéré et qui ont imaginé d'entreprendre des choses, de faire des choses ensemble. Et Nimier faisait partie de cette génération.
Et vous aussi, par la même occasion.
Comment ?
Et vous aussi.
Et moi aussi, voilà. Et donc, il y avait une espèce d'échange. Et donc, j'ai fait effectivement partie de ce petit groupe. Et Nimier écrivait, moi je n'écrivais pas. Et il m'a mis plus ou moins dans la peau de ce personnage.
Vous êtes mis à écrire. Je crois que vous avez toujours eu le goût de l'écriture. On en parlait tout à l'heure avec la bataille de Borodino, cette nouvelle de 1964. Et pour moi, les livres qui m'ont le plus frappé, c'est évidemment Le pouvoir et la vie, les trois tomes. Vous avez été le premier à parler, le premier chef d'État à raconter le pouvoir sous un angle aussi intime et par la même occasion avec beaucoup d'impudeur. Tony Blair, depuis, l'a fait également dans ses mémoires, mais c'est 20, 30 ans plus tard. Vous, est-ce que vous sentiez à ce moment-là que vous alliez choquer ?
Bon, je n'ai pas écrit pour choquer. Ce n'est pas à la recherche d'un effet.
Mais il y avait une part d'impudeur, j'allais dire, oui, qu'on n'attendait pas.
Vous avez raison. Oui, parce que les gens avaient de moi, et peut-être vous avez vous-même aussi de moi, d'ailleurs, une idée inexacte, n'est-ce pas,
qui est quelqu'un. Je ne l'ai plus depuis Le pouvoir et la vie, si je l'ai eu.
Bon. Non, c'est parce que j'avais lu les mémoires de Gaulle. Et je me suis dit, je ne veux pas écrire ça. C'est-à-dire des mémoires conventionnelles. Qu'on fait à partir de dossiers, en réalité, et dans lesquels on explique qu'on a toujours eu raison, et dans lesquels on cache toutes les choses qui font qu'on a eu tort. Je ne veux pas faire ça.
Et puis tout le côté humain aussi,
oui.
De la fonction.
Moi, je voulais au contraire dire mes souvenirs, c'est-à-dire ce dont je me souvenais. J'ai écrit sans dossier, aucun dossier. J'utilisais les photos, parce que j'ai tous les albums de photos de la présidence, et c'est très intéressant de revoir un peu les situations, les gens qu'on reçoit, leur attitude. Donc je regardais, mais j'ai aucun dossier, et je voulais raconter mes souvenirs, ce que j'avais senti. Alors par exemple, il y a un long récit sur une visite à Tombouctou, qui n'avait aucune signification politique, mais avec une émotion très forte, et je la décris telle qu'elle.
Il y avait quelque chose de charnel déjà dans Le pouvoir et la vie, que vous avez continué après dans votre roman Le Passage, qui c'était l'histoire d'un notaire qui tombait sur une autostoppeuse, qui tombait amoureux d'elle, que vous continuez dans La victoire de la Grande Armée, où il y a des scènes aussi d'amour. Et ça paraît toujours bizarre quand un président de la République, un chef d'État, encore une fois, se livre à ce type de description charnelle. C'est, ça nous, lecteurs, on est toujours, on se demande où veut-il en venir. C'est là où je parlais d'impudeur.
Non, d'abord, c'est des descriptions qui tout de même restent dans les limites du raisonnable.
C'est vrai.
Dans la dernière, j'avais mis une phrase qui allait un peu plus loin d'ailleurs. Et j'ai dit à mon éditeur, est-ce qu'on la maintient ou pas ? C'est lui qui m'a dit non.
C'était alors, laquelle, vous voulez bien nous le dire ?
Non,
vous ne préparez pas.
Voilà, j'ai mis un peu plus loin. Non, si vous dites la réalité, la vie des gens, bon, l'amour fait partie de la vie des gens, hein. L'amour a une dimension physique, a un attrait, une chimie.
Oui, mais c'est comme nos parents, c'est bien qu'ils ont fait l'amour, mais on n'aime pas beaucoup qu'ils nous en parlent.
Non, voyez, oui, mais je le fais, je crois, d'une manière qui est très allusive, mais enfin, en effet, qui permet de retrouver un peu l'approche, les sensations, les impressions. Il faut dire que nos sociétés antérieures étaient très étranges, parce que la vie de l'amour des dirigeants était beaucoup plus connue que maintenant. En fait, les maîtresses de Louis XV...
Ah oui, on sait tout sur Napoléon, oui, on sait tout.
Oui, Napoléon, par exemple, quand il fait la campagne de la Grande Armée. Bon, il écrit des lettres d'amour, ce qui est comme inimaginable, à Marie-Louise. Il avait épousé Marie-Louise 3 ans avant. C'était la fille de l'empereur d'Autriche. Bon, c'était pas vraiment une beauté, mais enfin, bon, une certaine beauté. Il lui envoie des lettres d'amour tous les 3-4 jours. Et en même temps, il repasse par Varsovie parce qu'il a sa liaison avec Marie Walewska. Hein. Donc, c'était bien présent dans leur vie, en fait. Et si on raconte leur vie, il faut raconter ce qu'ils font.
On retrouve Valéry Giscard d'Estaing après une pause.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Valéry Giscard d'Estaing, je me demande néanmoins si vous n'avez pas toujours aimé choquer les Français. Je me dis, on se souvient que vous avez commencé par libéraliser le régime pénitentiaire, vous aviez été visiter des détenus en prison, ce qui avait choqué les conservateurs qui faisaient partie de vos électeurs. Vous avez autorisé l'avortement, ce qui a choqué les catholiques qui faisaient partie de vos électeurs. Vous avez donné le droit de vote à 18 ans à une génération qui sortait à peine de mai 68, ce qui a beaucoup choqué les plus conservateurs de vos électeurs. Vous avez en plus beaucoup taxer les riches pendant votre septennat. Vous avez bloqué les plus hauts salaires tout en laissant monter les salaires les plus faibles. Vous avez donc réduit les inégalités. Il y a eu l'impôt sur les plus-values qui vous a beaucoup été reproché. Là aussi, j'imagine que ça a beaucoup fâché vos électeurs. Est-ce qu'il y avait, j'imagine, la nécessité, l'idée que vous vous faisiez de la France, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas chez vous le goût de choquer le Français ?
Alors là, je peux vous dire pas du tout. Je n'ai pas le goût de choquer. Par contre, j'étais décidé à éveiller, ce qui n'est pas la même chose. Nous étions dans une société que je considérais comme assez inerte, assez figée. Et moi, j'aime les sociétés vivantes, les sociétés dans lesquelles les gens commencent des choses, entreprennent des choses, changent des choses. Et je me disais, les Français, qui sont un des grands peuples du monde, et un peuple talentueux, hein, il ne faut pas qu'ils restent dans cette situation inerte où, en effet, ils sont en retard sur presque tout. Il faut qu'ils bougent. Mais mon idée était de les faire bouger, et ça n'était pas de les choquer.
Je crois qu'il vous a manqué à peu près 400 000 voix en 1981. J'en reviens toujours là. Hein. Vous les avez peut-être perdus là, en fâchant les catholiques, en fâchant les conservateurs, en fâchant les plus hauts salaires, les cadres, parfois.
Oui, mais
vous n'y avez jamais pensé, ça ne vous a pas préoccupé dès le début?
Non, ça je l'acceptais. Je veux dire, je savais, par exemple, il n'y a pas besoin de tangénie pour ça, d'ailleurs je savais qu'en abaissant l'âge électoral de 21 ans à 18 ans, ce que tous les jeunes font à l'heure actuelle, certains d'entre eux savent que c'est moi qui l'ai fait, enfin beaucoup d'autres ne le savent pas. Je savais qu'ils ne voteraient pas pour moi. Je savais qu'il y aurait une minorité, il y en aurait qui voteraient. Mais c'est un âge dans lequel on vote plutôt pour des extrêmes et plutôt pour des projets utopiques. Donc on vote en général pour une opposition, parce que l'opposition est plus utopique naturellement que les gens en place. Mais ça m'était égal. Je me disais, le changement qu'on doit faire, on ne doit pas le faire en fonction de considérations électorales. Prenez le divorce par consentement mutuel. La situation était grotesque.
Ça aussi, pensez... ça a dû vous coûter des électeurs.
Ouais, pensez qu'au moment où j'ai fait cette réforme, qui est très vite après mon élection, on ne pouvait divorcer que si l'on apportait la preuve que son conjoint vous trompait. Bon.
Donc, il fallait. Donc, vous avez des fausses lettres, d'ailleurs, la plupart du temps.
Il fallait trouver des témoins, alors on recrutait. Puis bon, c'était une espèce de comédie. J'ai dit non, si deux personnes sont d'accord pour se séparer, si elles sont d'accord pour le faire, et si on prend des précautions pour que ça ne soit pas un coup de tête et ainsi de suite, eh bien, elles ont le droit de le faire. On ne peut pas les obliger à vivre ensemble. Donc c'était, si vous voulez, toujours dans une idée de responsabilité et de liberté.
Au même moment, vous avez mis fin à la censure, en particulier la censure cinématographique, et aussitôt, tout à coup, les écrans français, parisiens en particulier, se sont couverts de films pornographiques. Vous vous en souvenez? Sur les Champs-Élysées, oui. Tout à coup, il n'y avait plus que des films pornographiques. Il a fallu que vous fassiez voter une loi contre le X, enfin sur le X, pour empêcher... quasiment.
Ah oui, le...
Parfois, on fait des choses et il en arrive d'autres.
Je suis emparé de montrer avec des postérieurs.
Partout.
Ah non, c'était effrayant. Alors, j'avais un ministre de la Culture qui était très bon. Michel Guy. C'est un type intelligent, et très, très agréable, que j'aimais beaucoup. Et lui était, en ce sens, plus libéral que moi. Il disait, oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. Non, je dis, on ne peut pas continuer, on ne va pas avoir sur tous les murs de Paris.
C'est sûr que le cinéma français, on serait peut-être mort, parce qu'il n'y avait plus de possibilité de déboucher.
Parce que c'est une idée, un conseil que je donne à ceux qui traitent ce genre de problème. Il faut le traiter par la finance, en fait. parce que les gens les plus libertaires, etc., ils le sont à condition que ça ne leur coûte rien.
Ou que ça leur rapporte.
Ou que ça leur rapporte. J'avais vu ça au moment de la publicité. C'est moi qui ai fait supprimer la publicité sur les autoroutes. Parce que j'ai vu qu'en Italie, il y avait de la publicité sur les autoroutes. C'était abominable. Entre Rome et la sortie de Rome, il y avait des grandes affiches partout. Voyant ça, je me suis voulu l'empêcher en France. Alors comment faire? J'avais dit, on va l'interdire. Alors Malraux m'avait dit, ça ne sert à rien, parce que vous l'interdirez, on le fera quand même. Vous n'allez pas envoyer des gendarmes démonter les affiches. Et je m'étais dit non.
Il faut taxer.
Il faut faire payer. Voilà. Et il faut mettre un impôt qui plaise à quelqu'un. Alors on a mis un impôt, et l'impôt allait aux communes, traversées. Donc ils ont mis des impôts tels que la publicité a disparu. Et dans l'affaire du cinéma porno, je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est leur enlever le public. Alors, on a décidé que ça ne pourrait être fait que dans des cinémas spécialisés, indiquant leur spécialisation. Et je me suis dit, dans ce cas, les gens n'oseront pas y aller. Ils ne voudront pas se faire voir. Donc, il n'y aura pas de recette. Et à ce moment-là, les films porno. Et effectivement, c'est assez inouï. Il n'y a pas eu d'interdiction, mais ça a disparu, enfin pratiquement disparu, de notre cinéma national.
A pu reprendre, effectivement, possession des Champs-Élysées. Vous avez également renforcé le système de protection sociale que les Français redoutent aujourd'hui de voir disparaître. Alors, les chômeurs indemnisés à 90%, c'est vous. Le salaire brut, 90% de leur salaire antérieur brut. La retraite à 60 ans pour les ouvriers, pour les métiers les plus pénibles, c'est
pénible.
Vous. Pour les métiers les plus pénibles, oui, c'est vous. L'augmentation des pensions de retraite, à l'époque, les personnes âgées étaient très défavorisées, c'est vous. Pendant votre septennat, les prélèvements obligatoires sont passés de 37% à 43%. C'était le prix à payer. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas fait, au fond, une politique socialiste, une politique de gauche?
Non, enfin bon, ça, on la qualifie comme on veut. Non, ce n'était pas une politique socialiste, parce qu'elle allait toujours directement vers le besoin des gens. Tu vois, je prends un exemple, les personnes âgées. Les textes existaient, simplement les niveaux étaient trop bas. Et en France, on ne se souvient plus à l'heure actuelle, mais les personnes âgées étaient pauvres, au sens pauvre. Hein, je me dis, je ne peux pas continuer, on ne va pas habiter un pays civilisé qui mène une vie quand même relativement facile avec un cinquième de la population qui vit dans la pauvreté, c'est impossible. Donc on a simplement remonté les minima et regardé dans le vocabulaire actuel, comme c'est curieux, on ne parle plus du problème de la vieillesse pauvre. Hein. Concernant le...
Non, je pensais plus généralement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, de passer de 39 à 43% de prélèvements obligatoires.
Alors, la raison est très claire. La raison est très claire et bon, est importante. C'est que c'est le chômage, en fait. C'est qu'est apparu, à partir des années, la moitié de mon septennat, est apparu un chômage très inférieur au chômage actuel. Puisqu'on avait 1 million de chômeurs à peu près, vous savez qu'on est toujours dans les 2 millions et demi, 3 millions, donc beaucoup moins. Et on a voulu indemniser ces chômeurs.
À 90%.
Oui, de conduite. Oui, parce qu'on croyait que c'était un chômage temporaire. Et c'est quelqu'un qui a travaillé pour moi à ce moment-là, qui était Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était un esprit brillant, etc., qui m'avait poussé dans ce sens. Et donc on l'a fait, et on croyait que ça serait simplement pendant 3 mois, 6 mois, et puis c'est devenu permanent. Et c'est le coût du chômage, en fait, qui fait qu'on est passé des chiffres que vous dites. Mais on était à 43%, on est au-dessus de 50%. Bon. Et quand on a terminé, le budget était en équilibre, et il n'y avait pas de dette. Donc on termine un septennat, ça aurait pu compter malgré tout, avec un budget en équilibre et pas de dette pour la France.
Voilà, c'était Valéry Giscard d'Estaing en décembre 2010. L'ancien président de la République sera inhumé dans une demi-heure à Autun, dans l'intimité. Nous, on se retrouve demain à 9h. Après le flash de 10h, vous avez rendez-vous avec Catherine Ney et Olivier Duhamel. Leur invité, c'est Jérôme Fourquet.